Je commence à répondre. Est-ce que la foi d'un croyant, je présume d'un chrétien, est une expérience interne ou externe? C'est une expérience interne et externe, mais comprenons bien divine, pas humaine. C'est pour ça que je ne peux pas partir pour ma philosophie à partir de la foi. Comprenez bien. C'est une expérience divine qui m'est donnée gratuitement. Comme c'est une expérience divine qui m'est donnée gratuitement, très bien. C'est une expérience qui me fait toucher une réalité qui me dépasse complètement. Et c'est une expérience interne parce que toute connaissance est une connaissance interne, est une expérience interne. J'ai la certitude de croire. Et cette certitude de croire est vécue intérieurement. Comme lorsque j'aime, j'ai une certaine connaissance interne de cette expérience. Donc, vous voyez, je ne peux pas partir de la philosophie à partir de la foi, puisque seuls les croyants ont la foi. Je continue, si vous voulez, ce que nous avions commencé hier. Comment une philosophie qui se veut aller le plus loin possible, puisque je crois que c'est le propre de la philosophie, c'est ce qui distingue une philosophie d'une science. Une science est toujours particulière. Les mathématiques sont particulières. Tandis que la philosophie ne veut pas s'arrêter à quelque chose de particulier. Elle veut aller le plus loin possible dans l'ordre de la connaissance de l'homme. Elle tend à être exhaustive. C'est pour ça que certains philosophes définissent la philosophie comme la connaissance d'un tout. Ce n'est pas la connaissance du tout, puisque ça resterait quelque chose d'abstrait. Je n'ai pas l'expérience du tout. J'ai l'expérience d'une personne humaine. J'ai l'expérience de la nature, des réalités qui sont en dehors de moi. Mais je ne peux pas m'arrêter à l'expérience interne parce que l'expérience interne est seconde. Bien que je sache que l'expérience interne est beaucoup plus riche que l'expérience externe. Normalement. L'expérience externe est donc liée aux sensations. Et cette expérience externe, comprenez bien, reste une expérience humaine. C'est-à-dire qu'elle implique l'intelligence présente aux diverses sensations. Je sais que je touche cette table. Et en disant « je sais que je touche cette table », vous voyez, je ne m'arrête pas à la sensation, je vais plus loin que la sensation. J'atteins quelque chose que l'intelligence seule atteint. Nous serons précisés progressivement. L'expérience est quelque chose donc de complexe. Elle implique une attitude affective. C'est pour ça qu'on peut être plus ou moins présent à l'assistance d'un cours. S'éveiller lentement à l'assistance d'un cours. Vous voyez, c'est une expérience, un cours. Vous subissez, vous entendez, et vous essayez de comprendre. C'est pas uniquement les sons, sons graves ou sons aigus, c'est que vous essayez à travers la parole de saisir ce que signifie la parole. Et quand vous avez un mot que vous ne comprenez pas, vous le notez pour que progressivement les mots aient une signification pour vous. Et quand le mot a une signification, il atteint une réalité. Tout le problème de la signification, qui est le problème de l'intelligence. Vous voyez la différence entre la représentation, qui est d'ordre imaginatif, et le problème de la signification. Représentez un petit chat, et vous pouvez vous poser la signification du chat. C'est pas la même chose du tout. Vous pouvez vous représenter un homme, le petit chat à côté, ou le petit chien à côté. La représentation est d'ordre imaginatif. L'imagination est présente dans toute expérience. Mais il y a quelque chose de plus, donc il y a l'affectivité, l'imagination, la mémoire, les souvenirs. C'est pour ça que l'expérience d'un homme qui a beaucoup d'expérience est une expérience beaucoup plus qualitative que la première expérience que vous avez faite. Et l'expérience implique l'intelligence. La philosophie réaliste commence par l'expérience. Elle ne néglige pas les intuitions. Elle ne néglige pas les inspirations. Elle ne néglige pas ce qui peut arriver par d'autres voies, comme la tradition, tradition religieuse. C'est une expérience affective, interne, la tradition religieuse. J'ai été élevé dans un climat de tradition religieuse. La tradition religieuse oriente l'homme vers tel type d'expérience. Mais l'expérience de la tradition reste une expérience interne. Je respecte la foi si je suis croyant. Je ne veux pas dire, en tant que philosophe, je rejette ma foi. Pas du tout. En tant que philosophe, je sais très bien que je suis un croyant. Je respecte la foi, mais je sais que la foi est un type d'expérience, un type de connaissance tout à fait particulier, qui n'est pas mon expérience humaine. Donc, vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'expérience de sens externe n'exclut aucun autre point de départ des diverses philosophies. Alors, je vous rappelle simplement ici, à titre d'intérêt, quand vous regardez une telle ou telle philosophie, c'est toujours très intéressant de se poser la question. Quel est le point de départ de cette philosophie? C'est même capital. Et quand on vous expose telle ou telle philosophie, demandez au professeur, c'est une très bonne question, qui va peut-être le mettre dans l'embarras, mais c'est très bien. Il faut mettre les professeurs dans l'embarras. Par des questions astucieuses. Pas pour ça. Vous posez une question pour connaître la vérité. Mais il faut poser des questions qui poussent le plus loin possible. Il faut poser toujours la question, quel est le point de départ de cette philosophie? La philosophie de Bergson, quel est le point de départ? La philosophie de Heidegger, quel est son point de départ? Tant que vous n'avez pas saisi le point de départ d'une philosophie, vous ne la connaissez pas. Vous regardez son point de départ et son terme. Jusqu'où ce philosophe a-t-il été? Tout son cheminement. Et ça, c'est capital. Une fois que vous avez précisé, c'est pas toujours commode, parce qu'il y a des philosophes qui ne disent pas leur point de départ. parce qu'ils ne sont pas assez lucides, pas assez critiques. C'est la critique qui me dit, voilà mon point de départ. Et ça aide à comprendre. C'est pour ça que je vous le dis tout de suite. Parce que je pourrais commencer, oui, on va faire la philosophie, la métaphysique, c'est ça, attention. Nous sommes dans une philosophie réaliste qui cherche à connaître l'homme. L'homme existant, pas le martien, pas l'homme possible, mais l'homme existant, l'homme tel qu'il est, l'homme qui est Pierre, Jacques, Jean, que je connais bien, et puis moi, puisque c'est moi aussi que j'essaie de connaître, et que j'essaie de comprendre un tout petit peu. Donc, le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience. Mais je ne demeure pas dans l'expérience. Ça qui est toujours très important de se rappeler. Je pourrais décrire l'expérience. La philosophie phénoménologique décrit l'expérience interne. Un artiste peut décrire ses expériences. Si j'écris un roman, je décris mes rencontres. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais encore jamais rencontré dans ma vie. Il avait des yeux extraordinaires et il m'a complètement séduit. À partir de là, ma vie a été transformée. Et puis, je peux décrire ça. Je peux décrire comment il m'a regardé et comment je l'ai regardé. C'est pas de la philosophie, ça. C'est très intéressant. Parce que c'est la rencontre d'une personne avec une autre rencontre. C'est la description. La philosophie part de l'expérience. Le philosophe interroge. Alors là, il faudrait s'arrêter longtemps. Le philosophe interroge. Un philosophe qui n'interroge pas, c'est un idéaliste. C'est Merleau-Ponty qui dit ça. Bonne phrase qu'il a dit. L'idéaliste n'interroge plus. Faut pas oublier que Merleau-Ponty a commencé par l'idéaliste. Puis il a redécouvert l'être sauvage à la fin de sa vie. C'est très curieux. Merleau-Ponty et Heidegger, ce sont deux philosophes qui, partant de l'idéalisme, à un moment donné dans leur vie, se sont convertis au réalisme, à leur manière. Merleau-Ponty cherche l'être sauvage. Heidegger cherche l'être. Au-delà des idées, au-delà de toute impression intérieure, il cherche l'être. Et pour lui, l'être, on lui dirait, mais votre être, c'est l'imaginaire. Il vous dirait, non, vous n'avez rien compris. L'être, c'est ce qui existe, c'est ce qui est, c'est ce qu'il y a de plus profond. Donc, le philosophe interroge. Alors, comment naît l'interrogation? Réfléchissez sur les interrogations que vous aviez posées quand vous étiez gosse. Parce que, ordinairement, on pose beaucoup d'interrogations quand on est un gosse. Ça fait partie de ce que dit notre Seigneur. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Voyez là, interrogez. L'enfant interroge. Dans notre monde d'aujourd'hui, très vite un enfant n'interroge plus. Dès qu'il va en classe. C'est l'été noir. Parce que s'il interroge, mais je vais vous le dire, ne devancez pas mon cours, attendez. Alors, au bout d'un certain temps, il se tait. Tandis que le gosse interroge, qu'est-ce que c'est? La première fois qu'il voit le TGV, qu'est-ce que c'est? Cette grosse bête, qu'est-ce que c'est? Première fois qu'il voit un crapaud, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors la mère répond un crapaud. Vous comprenez très bien que pour lui, ça signifie rien du tout, c'est un mot. C'est comme ça qu'on vous a éduqué, en vous donnant comme nourriture des mots. Une locomotive. Une locomotive. Mais qu'est-ce que c'est qu'une locomotive? Alors quand le gosse continue d'interroger indéfiniment, la mère au bout d'un certain temps. Ah non, tu es fatigant. Tu es fatigant, c'est pas comme ça. Et pourtant, c'est par l'interrogation que l'intelligence s'éveille. C'est pour ça que c'est terrible de ne pas répondre. On peut dire, écoutez, actuellement, je ne peux pas vous répondre. On va chercher ensemble. Mais on doit chercher. Toute interrogation réclame une réponse. Alors ça, c'est très très important, la question des interrogations. Et de bien comprendre que l'interrogation, c'est l'intelligence en appétit. Platon dit, l'interrogation, c'est le chien de chasse devant le fourré dans lequel se trouve le gibier. C'est très joli, c'est une image, c'est symbolique. Mais c'est très joli, c'est le chien de chasse, on est en arrêt. Dans l'Apocalypse, le dragon en arrêt devant la femme. Il interroge. Qu'est-ce? Alors, pour qu'il y ait interrogation, il faut une certaine connaissance, et il faut une connaissance qui n'arrive pas à tout saisir. L'interrogation provient de l'ignorance et de la connaissance. Il faut suffisamment de connaissance pour éveiller en moi un étonnement affectif, une admiration. S'il n'y a pas d'étonnement et d'admiration, je n'interrogerai pas. Quelqu'un qui est blasé. On est vite blasé aujourd'hui. Quand on a regardé la télévision à partir de 5 ans ou de 4 ans, on est blasé à 10 ans. Alors on n'interroge plus. Tandis qu'on devrait tout le temps interroger. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a une expérience, il y a un étonnement, une admiration, c'est l'attitude affective. Et puis à partir de là, l'intelligence s'éveille et l'intelligence interroge. Et l'intelligence se pose la question, qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est? Alors, posez tout de suite, parce que c'est intéressant de faire des parallélismes par rapport à la philosophie contemporaine. Voyez, je dis expérience, admiration, ou étonnement, peu importe. L'expérience, c'est l'intelligence liée aux sensations. L'admiration, c'est la partie affective. Pas strictement l'intelligence. L'intelligence est présente, mais c'est la partie affective. Et de l'admiration et de l'étonnement naît l'interrogation. Alors, mettez en parallèle, parce que c'est toujours très intéressant, les modernes. Et ici, je parle de Heidegger, si vous voulez. Disent que la philosophie commence par l'angoisse. Pourquoi les modernes intelligents, puisqu'ils sont de ce siècle, pourquoi les modernes disent-ils que la philosophie commence par l'angoisse? Je me souviens, c'était à Fribourg, un jeune garçon valaisan, sain, mais très sain de constitution, intelligent, matheux. Au bout de 6 mois de cours, il arrive chez moi. Père, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai lu Heidegger qui a dit que pour entrer en philosophie, il fallait l'angoisse. Alors depuis 6 mois, je cherche l'angoisse. Et ça vient. Et maintenant, je ne sais plus comment sortir. C'était très émouvant, parce qu'on voyait sa bonne volonté d'entrer en philosophie. L'angoisse. Alors on essaie de comprendre un peu ce que c'était et l'erreur de Heidegger. Vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est à ces points-là où il faut toucher ce qu'est une philosophie réaliste et une philosophie qui se coupe du réel. Qu'est-ce que c'est que l'angoisse? Toute la philosophie contemporaine parle de l'angoisse. Et les philosophes, en parlant de l'angoisse, engendrent l'angoisse. C'est ça qui est terrible. Parce que si vous êtes angoissé, vous vous taisez. Ordinairement, c'est ce qui se passe. Quand on est angoissé, on se tait. Mais les philosophes ne sont pas angoissés. Et ils parlent de l'angoisse comme étant la porte vers l'angoisse. Si Heidegger avait été plus angoissé, il n'aurait pas tant écrit. Ce qui prouve qu'il n'est pas très angoissé. Et que ça fait partie d'une mode. Je ne crois pas beaucoup aux angoisses des philosophes qui écrivent des bouquins. Je crois à l'angoisse de certains êtres qui alors sont saisis par l'angoisse et n'arrivent plus à en sortir. Et les philosophes ont fait beaucoup de mal en parlant de l'angoisse. Je crois que en parlant de l'angoisse, ils ont détecté quelque chose de très propre à notre époque. C'est très vrai. On ne parlait pas de l'angoisse au XVIIe siècle. On parlait de la vertu. On ne parlait pas de l'angoisse au XVIIIe siècle. On parlait du siècle des Lumières. Notre époque est marquée par l'angoisse. Donc, il faut que nous comprenions, nous, avec beaucoup d'acuité, qu'est-ce que c'est que l'angoisse, parallèlement à l'admiration, à l'étonnement. Et de fait, hein, quand je regarde les philosophes qui sont autour de moi, les uns disent, on entre en philosophie grâce à l'admiration qui nous permet l'interrogation. Et d'autres philosophes, qui sont nombreux aujourd'hui, disent « c'est l'angoisse ». Alors pourquoi ça? Parce que ça, c'est très caractéristique, vous voyez. C'est deux attitudes affectives totalement différentes. Je crois qu'au plus intime de vous-même, vous pouvez expérimenter d'une expérience interne ce que c'est que l'angoisse. Est-ce que c'est que l'admiration? J'espère que vous avez quand même expérimenté une fois dans votre vie ce que c'est que l'étonnement et l'admiration. J'espère. Si ce n'est pas encore arrivé, j'espère que ça va pousser. Parce que si vous n'aimez pas du tout ce que c'est que l'étonnement et l'admiration, vous avez le gosse qui ouvre des grands yeux. Oh, regardez l'étonnement du gosse. Au moment de Noël, quand il y a dans les vitrines des choses étonnantes, les derniers jouets, les dernières trouvailles, c'est ce qui est intéressant dans notre monde, c'est qu'on fait des trouvailles dans les jouets. C'est extraordinaire, des trouvailles énormes, merveilleuses. Là, il y a de quoi s'étonner. Et alors vous regardez les gosses, mais ils trépignent devant ça. Ils sont dans l'admiration. C'est extraordinaire. Alors ça commence à s'arrêter. Quand la mère dit « ça coûte trop cher », alors il s'arrête. Il regarde encore par derrière. Il voudrait rester là. C'est tellement beau, les jouets. Il faudrait entourer ici, une salle de... On voudrait des jouets, les derniers jouets. Alors l'étonnement. Ça maintiendrait un peu d'étonnement, un peu d'admiration. Les gosses ont une faculté étonnante d'étonnement. Puis arrivé à un certain âge, blasé. Ils sont blasés. Quelqu'un qui est blasé, fini. Plus de philosophie. Vous retiendrez votre leçon pour passer les examens. Vous réciterez des choses par cœur. Mais vous êtes blasé. Fini. Les théologiens du XIIe siècle disaient « pas de contemplation sans admiration ». Pas de contemplation sans admiration. Ça au plan théologique et même au plan philosophique. Je crois qu'il n'y a pas d'admiration, s'il n'y a pas d'étonnement, s'il n'y a pas... Vous voyez, cet aspect affectif du cœur, le cœur s'ouvre devant l'admiration, devant l'étonnement. Il y a quelque chose de grand. Je crois, on peut le dire au plan spirituel. Quand Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu », le cœur de Jean est entré dans l'admiration et l'étonnement. Première fois que vous avez vu le pape, l'étonnement, l'admiration. Puis vous courez après. C'est ça l'étonnement, l'admiration. Alors pourquoi les modernes commencent-ils par l'angoisse? C'est quand même curieux ça. Est-ce que c'est pas le signe? Je pose une question, nous y répondrons progressivement, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Est-ce que ce n'est pas le signe d'un primat de la négation? L'angoisse. Dire que la philosophie commence par l'angoisse. On aurait dit ça à Aristote, ou à Platon, ou à Plotin, ou à un grec. Je leur dis, mais vous êtes fous. L'angoisse, mais c'est ce qui vous annihile. Vous êtes annihilés par l'angoisse. Vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un qui est vraiment angoissé, il reste fixé sur sa chaise, il met sa tête dans ses mains, puis il attend que ça passe. Et ça met du temps à passer. Alors, s'il connaît un petit chien, le petit chien est là, à côté. Quand il voit son maître angoissé, il regarde. Très curieux. Je dis pas qu'il est dans l'admiration, mais... Et quelquefois, ça aide. Quand on est angoissé, ça aide d'avoir un petit animal fidèle. Ou un ami fidèle. Mais c'est la fidélité qui fait sortir de l'angoisse. C'est curieux. Au niveau affectif, c'est la fidélité. Il ne faut jamais oublier. Quand vous avez quelqu'un qui est angoissé, ne lui faites pas connaître quelque chose de nouveau. C'est la fidélité. La fidélité, c'est quelque chose de déjà connu, déjà aimé. C'est quelqu'un qu'on aime qui est fidèle. Eh bien, l'angoisse, on peut aider l'être angoissé par la fidélité, en lui rappelant. C'est pour ça que le petit chien, vous savez bien, la prière de l'arche, il ne faut jamais l'oublier, de tous les animaux qui s'adressent à Dieu. Et alors, il y a le chien qui s'adresse au Père et qui dit « Je crois ». Entre nous, qu'il n'y a que vous et moi qui sommes fidèles. C'est la fidélité, ça. La fidélité fait sortir de l'angoisse. Ça, c'est très très important au plan philosophique. Puisque les philosophes parlent de l'angoisse, je n'ai pas le droit, quand je parle du point de départ de la philosophie, de dire « ça ne m'intéresse pas ». Ça m'intéresse énormément. Parce que vous rencontrerez des gens angoissés. Et votre philosophie doit vous aider à les faire sortir de l'angoisse. Vous comprenez, l'angoisse est une inhibition affective. Vous êtes complètement enveloppé dans votre cocon. Je crois qu'on peut dire que l'angoisse provient d'un oubli de l'expérience. Un oubli d'expérience. Alors comment remettre l'expérience en face de quelqu'un qui est angoissé? Comment remettre l'expérience? La fidélité. Parce que la fidélité, c'est quelque chose qui touche l'amour, qui est intérieur, et qui en même temps rejoint une réalité. Et donc ça vous réveille dans l'expérience. C'est très important ça, de regarder ce point de départ de la philosophie. C'est merveilleux. Ça, c'est Aristote qui dit ça. expérience, admiration, interrogation. Les trois premiers moments. Un, deux, trois. Ces trois premiers moments, c'est les trois premiers pas du philosophe, hein, qui commence un tout petit peu à comprendre. Et c'est tout le temps actuel, ça. Parce que je recommence tout le temps ma philosophie. Expérience, étonnement, admiration et interrogation. Tandis que l'angoisse, de l'angoisse, qu'est-ce qui peut sortir? Rien. C'est très curieux. Dans Heidegger, la place de l'angoisse. Dans Sartre, l'annihilation. C'est l'angoisse. Le primat du négatif. Le primat du positif. Une fois que vous avez compris ça, vous voyez très bien ces deux grandes orientations de la philosophie. L'une qui s'appuie sur l'expérience. L'expérience me met en contact avec une réalité autre que moi. Et donc me donne la sécurité. Je donne la main à quelqu'un. C'est la sécurité. Le gosse, quand il a peur, il donne la main à sa mère. Ça, c'est la sécurité. Je m'appuie sur les réalités autres que moi. Ça me rassure. Point de départ de la philosophie. Si j'oublie ce point de départ, et je peux l'oublier par l'imaginaire, c'est l'imaginaire qui fait l'oubli de l'expérience. L'angoisse, c'est l'imaginaire pris comme absolu. Je m'enferme dans l'imaginaire. Et l'imaginaire peut être ce domaine, un imaginaire affectif. Parce que c'est affectif, l'angoisse. C'est l'affectivité. Une affectivité nourrie par l'imaginaire. Une affectivité passionnelle. Vous avez des angoisses du concupiscible et des angoisses de l'irascible. Et les psychologues aujourd'hui, les bons psychologues, les psychologues d'aujourd'hui cherchent la diversité des angoisses. Parce qu'on en est malade de l'angoisse. Et ça peut provenir quelquefois du scrupule. Vous voyez, le scrupule, c'est une maladie dans l'attitude réflexive. Vous êtes scrupuleux pourquoi? Parce que vous réfléchissez sur quelque chose qui est passé. Vous dites, ah, oh, j'ai peut-être manqué ça. Oh, j'ai peut-être fait telle ou telle chose. Vous voyez, c'est le début de l'angoisse, ce scrupule. Au bout d'un certain temps, on se replie sur soi d'une manière telle qu'on n'a plus au contact avec le réel. Alors c'est toujours très intéressant de voir l'origine d'une angoisse. Hein. Si vous pouviez saisir l'origine de toute espèce d'angoisse, vous seriez déjà à peu près sauvé. Parce que vous voyez la passerelle pour rejoindre le réel, la fidélité. Bon, il faut retenir cette espèce d'opposition entre ce qu'on représente la philosophie réaliste et une philosophie idéaliste. Je crois qu'une philosophie idéaliste nécessairement aboutit à l'angoisse. C'est le fruit d'une philosophie idéaliste. Et une philosophie idéaliste commence par le primat de la négation. Ça, nous le verrons en critique. Parce que c'est très intéressant. Ça nous aide à comprendre toute la philosophie moderne. Il faut qu'on ait cette petite clé. Tandis qu'au contraire, la philosophie réaliste commence par le primat de l'affirmation, l'expérience. Expérience, admiration, interrogation. L'interrogation, c'est l'intelligence qui reprend tous ses droits. Vous voyez, dans l'expérience, l'intelligence est liée à la sensation. Dans l'interrogation, l'intelligence se sépare. C'est extraordinaire, l'interrogation. C'est l'intelligence qui se sépare des sensations, qui se sépare du réel, qui décolle. Quand Aristote parle de l'intelligence séparée, quel est le premier moment où une intelligence se dresse comme intelligence? c'est quand elle interroge. Une intelligence qui interroge est une intelligence qui, j'allais dire, opère par elle-même. C'est l'intelligence qui se dresse, je ne dis pas sur ses pieds puisqu'elle n'a pas de pieds, mais c'est l'intelligence qui se dresse en elle-même dans sa propre autonomie. Le premier moment de l'autonomie de l'intelligence, c'est l'interrogation. L'intelligence interroge. C'est très beau, ça. Quelqu'un qui n'a jamais interrogé dans sa vie, il est horizontal. C'est le premier moment de la verticale. Il interroge. Alors, ce serait intéressant ici. Je le dis bien, vous voyez, d'où vient l'interrogation ? L'interrogation, c'est l'intelligence insatisfaite qui veut aller plus loin. Donc, c'est l'appétit de l'intelligence. C'est l'intelligence qui veut aller plus loin. Alors, elle pose cette question. Alors, ce qui est important, et ça nous verrons ça la fois prochaine, quelles sont les grandes interrogations ?